Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans, et c'est Clap. Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans Manceaux avec Pierre Barry.
Bonjour.
Et Michel Lafon. Cette semaine, beaucoup plus de films que je ne l'avais imaginé au départ, mais certains de ces films seront tout à fait confidentiels. Alors, ça ne sera pas le cas de Pauvre Créature, on parlera aussi de La Tête Froide, Le Voyage en Pyjama, Comme un Prince, Prima Donna, Les Chambres Rouges, Krisha et les maîtres et le maître de la forêt est si proche du soleil. Voilà, pour ce qui est de la promotion musicale, ça a été très très compliqué. Et on va écouter, pour une fois, certainement la dernière, c'est Jérôme.
Ah.
Et oui, c'est Jérôme. On l'entend en fond sonore, hein, mais vraiment en fond sonore, il faut prêter l'oreille, dans le film Comme un Prince. Et donc, ça s'appelle Et tu danses avec lui. Bon, ceux qui ont un certain âge connaissent C'est Jérôme. Trop tôt disparu, comme on dit. Et on connaît cette chanson de C'est Jérôme, Et tu danses avec lui.
Tu n'as jamais dansé aussi bien que ce soir. Je regarde briller tes cheveux blonds dans le noir. Tu n'as jamais souri si tendrement, je crois. Tu es la plus jolie, tu ne me regardes pas.
Et tu danses avec lui, la tête sur son épaule. Tu fermes un peu les yeux, c'est ton plus mauvais rôle. Et tu danses avec lui, abandonné, heureux. Tu as toute la nuit pour en être amoureuse.
Je suis mal dans ma peau, j'ai envie de partir. Il y a toujours un slow pour me voler ton sourire. Et tu flirtes avec lui, moi tout seul dans mon coin. Je ne sais plus qui je suis, je ne me souviens plus de rien.
La tête sur son épaule, tu fermes un peu les yeux, c'est ton plus mauvais rôle.
Et tu danses avec lui, c'est Jérôme, un chanteur qu'on n'entend plus du tout, hein, même sur Nostalgie. Hein, il était une très très grosse vedette quand j'étais étudiant. Moi, je me rappelle très bien, avec des gens comme Frédéric François, Patrick Juvet, enfin, des gens comme ça. Voilà, donc c'était Et tu danses avec lui, on entend en fond sonore dans une scène de bistrot dans le film Comme un Prince. Notre semaine cinématographique, on la commence avec Pauvre créature de Yorgos Lanthimos, réalisateur, scénariste et producteur grec, né en 73. 2009, premier long métrage Canine. 2011, Alps. 2015, c'est le film qui le rend célèbre The Lobster avec Colin Farrell et Rachel Weisz. 2017, Mise à mort du cerf sacré avec Colin Farrell et Nicole Kidman. Et puis 2018, La favorite avec Olivia Colman, Rachel Weisz et Emma Stone. Ce film est proposé aux cinéastes et aux Pathé Quinconce, aux cinéastes que de la VO, aux Pathé Quinconce, VOVF. Et pour en savoir plus, c'est Pierre Barry.
Eh bien, en VO, c'est Poor Things, le titre. Durée 2h21 avec Emma Stone, Mark Ruffalo et Willem Dafoe. Le synopsis, Bella est une jeune femme ramenée à la vie par le brillant et peu orthodoxe docteur Godwin Baxter. Sous sa protection, elle a soif d'apprendre. Avide de découvrir le monde dont elle ignore tout, elle s'enfuit avec Duncan Weatherburn, un avocat habile et débauché, et embarque pour une odyssée étourdissante à travers les continents. Imperméable aux préjugés de son époque, Bella est résolue à ne rien céder sur les principes d'égalité et de libération. La revue de presse, il y en a beaucoup.
Oui.
Écran large avec Alexandre Janoviak, parfois inconfortable, souvent déchirant, constamment jubilatoire. Pauvre créature est une merveille de cinéma aussi précieuse que la performance hors norme d'Emma Stone. L'humanité avec Emilio Mesley, un ravissement de tous les instants pour les yeux. Cinématiseur avec Renan Cross, fou, furieux et passionnant. L'Obs avec Nicolas Chalère, qu'importe. Il y a plus d'intelligence et de folie dans cette fable baroque contre la morale et la connerie bourgeoise. Lion d'or à la dernière Mostra de Venise que dans 95% de la production actuelle. La Croix avec Cécile Rouden. L'iconoclaste Yorgos Lanthimos revisite le mythe de Frankenstein dans un conte aussi amusant qu'intelligent à l'univers gothique et aux propos féministes. Ouest France avec Pascal Vergerot. Emma Stone habite son personnage avec une telle force qu'elle fascine de bout en bout. Télérama avec Jacques Maurice, la prestation d'Emma Stone est si ébouriffante qu'on lui promet déjà un Oscar après son Golden Globe de la meilleure actrice dans un film musical ou une comédie. Le Parisien avec Renaud Barognan, bardé de prix dans les festivals, bien placé pour les Oscars, acclamé par la critique internationale. Le nouveau film de Yorgos Lanthimos, une variation sur le thème de Frankenstein, pourra cependant faire fuir nombre de spectateurs par son cynisme et certaines scènes peu ragoûtantes. Les Échos avec Adrien Gombeau, pauvre créature brille par ses trouvailles et idées loufoques, mais finit par s'égarer dans l'autocomplaisance. Les Inrecuptibles avec Arnaud Allais, dans une recherche désespérée du malsain, le film se donne des airs, notamment celui de grands films malades qui reste finalement plus sage qu'il ne veut bien le laisser entendre. Mais reste alors la plus grande beauté du film, voir Emma Stone prendre les rênes pour ne plus jamais s'incliner et être à la fois sauvage, bestial et ingénu. Et je terminerai par ceux qui n'ont pas aimé, Le Figaro avec Étienne Sorin. L'esthétique douteuse du film est aggravée par l'abus que fait Lanthimos du grand angle ou œil de poisson, fisheye, qui entraîne une distorsion de l'image au spectateur de faire preuve à son tour d'endurance pour aller au bout des 2h21 de ce film monstrueux dans tous les sens du terme. Marianne avec Olivier De Bruyne, avec ses airs de faux Frankenstein, cette fiction m'as-tu vu souhaitait ressusciter l'esprit corrosif du grand Buñuel, mais ne ressemble qu'à une très longue plaisanterie potache à éviter. Et Télérama par Samuel Douer, pauvre créature est d'autant plus pénible qu'il se revendique d'un féminisme pour le moins discutable, qui consiste à faire d'abord subir à son héroïne et à son interprète les pires humiliations, mises en scène avec une gourmandise et une complaisance sadique.
Voilà, ça s'appelle Pauvre créature, c'est proposé par les cinéastes avec 2 séances par jour et le Pathé Quinconce, ou Pathé Quinconce, VF et VO. C'est un conte gothique fantastique, à vocation résolument féministe et aussi bien particulier. Alors, donc, c'est l'histoire de Bella. Elle a un corps de femme adulte avec un cerveau d'enfant. Elle a été créée par un brillant mais monstrueux chirurgien, créateur de chimères, qui l'a ramenée à la vie après son suicide, lui greffant le cerveau de l'enfant qu'elle portait dans son corps de femme. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle un savant fou. Il veut la garder sous sa protection, mais Au fur et à mesure que le cerveau de Bella s'éveille, eh bien, elle veut s'évader et découvrir le monde. Elle y parvient grâce à Duncan Wedderburn, un bellâtre avec qui elle découvre aussi la sexualité et qu'elle ne tardera pas non plus à quitter pour s'émanciper totalement. Alors, Yorgos Lanthimos impose incontestablement un style visuel particulier. La plupart des scènes sont filmées au grand angle. C'est pas tout à fait du fish eye, c'est du grand, très grand angle, d'où une impression constante d'étrangeté, renforcée par un cadre décoratif très baroque, très surchargé. Le film déroutera sûrement pas mal de spectateurs pour la radicalité assumée de sa mise en scène. Sur le propos, il est question d'émancipation féminine, ça n'est pas très nouveau, et je ne suis pas sûr que les féministes apprécieront que cette émancipation passe à un moment par la prostitution dans un bordel. Mais bon, voilà, c'est pourtant le cas dans le film. Emma Stone fait une composition étonnante, ce qu'on appelle une prestation à Oscar, femme naïve au début, puis qui s'assume sans le moindre filtre dans ses propos, puisqu'elle n'a pas eu de véritable éducation, et dans tous les cas d'éducation conventionnelle, ce qui lui vaut une certaine rudesse dans ses propos, engendra une vraie drôlerie, parce que le film d'ailleurs fait preuve par-ci par-là de notes d'humour, par exemple le fameux savant fou, chirurgien fou, crée des chimères d'animaux assez amusantes. Un animal avec une tête d'oie et un corps de chien, un autre avec une tête de cochon et un corps de poulet. Enfin, des choses un peu amusantes comme ça. Et puis, il y a quelques scènes quand même assez gore, où je sais que des voisins de salle ont détourné le regard. Voilà, un film vraiment original, fantasque, trop long, hein, trop long malgré tout, puisque ça fait 2h21, qui sort résolument des sentiers battus, plus d'ailleurs par sa forme, à l'esthétique, je vous l'ai dit, très particulière, que par son propos. C'est quand même, le féminisme, c'est quand même très dans l'air du temps. Et bon, c'est complètement anachronique pour l'époque où il se déroule, mais enfin bon, c'est comme ça. Ça se laisse voir, mais j'hésite à le recommander parce que si vous y allez en pensant voir un film très classique, vous risquez d'être très 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 dérouté par Pauvre créature au cinéaste ou au Pâté Quinconce. Au cinéaste, à nouveau, La tête froide. La tête froide, c'est un premier film de fiction de Stéphane Marchetti, réalisateur et scénariste qui a à son actif jusqu'à maintenant des documentaires, notamment beaucoup de documentaires concernant la bande de Gaza. Et La tête froide, donc je répète, son premier long-métrage de fiction avec programmation uniquement au cinéaste, une séance par jour, encore par exemple, pas aujourd'hui, si vous nous écoutez en direct, qu'il n'y en a pas vendredi, donc une seule séance par jour. C'est avec Florence Loire-Écaille. Dans les Alpes enneigées en plein hiver, pour boucler ses fins de mois, Marie, 45 ans, trafique des cartouches de cigarettes entre la France et l'Italie avec l'aide de son amant Alex, policier aux frontières. Lorsqu'elle rencontre Suleyman, jeune réfugié prêt à tout pour rejoindre sa petite sœur, elle s'embarque dans un engrenage bien plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. Qu'en pense la presse? Eh bien, Pascal Vergerot, dans Ouest France, déclare que Florence Loire-Écaille et Sabo Baldé sont très justes dans ce film haletant. Xavier Lerper dans l'Obs, sèche et acérée, la réalisation accompagne impeccablement ce thriller exsangue où l'espoir n'a guère de place. Le Figaro, un thriller social brut et fort, sans pathos ni manichéisme, porté par le magnifique duo formé par Florence Loire-Écaille et Sabo Baldé, découvert dans Twist à Bamako de Robert Guédiguian. Didier Perron dans Libération, on est reconnaissant à La tête froide de n'endosser absolument aucun des travers édifiants de nombreuses fictions sur cette thématique, tout en rendant parfaitement sensible l'adversité et les espoirs des individus fuyant leur pays d'origine et souvent mal récompensés de tous leurs efforts. Olivier de Bruyne dans les Échos, La tête froide, malgré ses nobles intentions et la prestation de l'excellente Florence Loire-Écaille dans le rôle principal, souffre de ses nombreuses invraisemblances et n'atteint pas les sommets des meilleurs films consacrés aux réfugiés. C'est bien l'avis d'Élodie Bardinet dans Première. Si le récit ressemble trop au récent Le Prix du Passage, pour ne pas bégayer, sa réalisation inspirée, alternant entre caméra à l'épaule et moments plus posés, permet au film de faire entendre sa propre voix dans une tension étouffante jusqu'à sa conclusion plus complexe qu'il n'y paraît. 1h32 pour ce film, La tête froide, proposée, je le répète, au cinéaste avec une seule séance par jour. Donc, c'est l'histoire de Marie. Marie, c'est une jeune femme en galère qui, pour arrondir ses maigres fins de mois, fait un petit trafic de cigarettes à la frontière entre la France et l'Italie grâce à la complicité de son amant, un flic, qui lui indique les postes frontaliers non surveillés et donc elle peut passer tranquillement. Un soir, eh bien, en rentrant en Italie, elle manque de renverser un migrant clandestin, Suleyman, et l'aide à passer la frontière. Celui-ci lui propose de se lancer dans des passages de migrants, trafic nettement plus lucratif que la contrebande de cigarettes. Marie accepte, davantage par appât du gain, vous l'aurez compris, que pour des raisons humanitaires. Et elle met le doigt dans un engrenage. Voilà, donc ça, c'est l'histoire. Le thème, c'est celui des migrants clandestins. Il est quand même un thème qui est l'objet de très nombreux reportages et même de films assez régulièrement. Il y a encore 15 jours, 3 semaines, il y avait « Moi, capitaine » qui était sur ce thème-là. Le film donc de Stéphane Marchetti sonne juste, c'est sûr, mais n'apporte rien de particulier à ce sujet, si ce n'est de le traiter sous un angle nouveau, avec ce portrait d'une jeune femme paumée qui découvre le problème des migrants et doit y faire face à sa manière. Cette jeune femme est incarnée par une parfaite Florence Loiret-Caille, ça j'en conviens. C'est le genre de film à caractère social sur lequel il n'y a quand même pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'il est parfaitement documenté, réalisé avec soin et sobriété, mais ça fait partie quand même de ces films qui sortent dans l'anonymat et qui ne rencontreront sans doute qu'un très maigre public.
Alors, la tête froide, sens premier ou sens figuré, ou peut-être les deux. C'est à vous de voir si vous allez voir le film. Vous allez être tenté de dire encore un film sur les migrants. Oui, mais là, il s'agit d'un véritable thriller à suspense. Si Marie s'adonne au trafic de cigarettes entre l'Italie et la France, très vite, elle se transforme en passeuse pour migrants, une activité plutôt dangereuse, même si Marie est quelque peu protégée par son petit copain qui est policier et lui indique les routes à suivre pour franchir les Alpes. Les Alpes en hiver, c'est la neige, le froid, auquel est attaché le réalisateur originaire de Lyon, et dont c'est le premier long-métrage, tu l'as dit Michel, premier long-métrage de fiction. Le happy end du film est quelque peu surprenant, à mon goût, quand on s'attend plutôt à un déroulement dramatique.
Oui, c'est vrai. Bon, ça s'appelle La tête froide et c'est au cinéaste. Petite pause musicale, on va écouter un morceau de musique issu du film Pauvre créature. Le compositeur de la musique s'appelle Jerskine Fendrix. Je n'avais jamais entendu parler de lui, je dois l'avouer. Et là, on va écouter la musique, parce que c'est pas une chanson, c'est une musique du générique de fin, Poor Things, finale. C'est sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Thank you.
Poor Things, Gerskin Fendrix, le compositeur de la musique, et c'est le titre que l'on entend sur le générique de fin. Voilà, Le Voyage en pyjama, c'est le moment d'en parler. C'est un film proposé uniquement par le Pathé Quinconce, un film de Pascal Thomas, réalisateur, scénariste, dialoguiste, producteur et même acteur à l'occasion. Né en 45, oui, il n'est pas tout jeune. Hein.
78.
Eh oui, donc auteur de courts-métrages, de pubs, et puis le premier long-métrage, je me rappelle très très bien, parce que moi j'ai fait toute la filmographie de Pascal Thomas, puisque je suis vieux comme lui. c'était en 72, Les Ozos. Et oui, ça avait marqué l'époque, hein, ce film-là. 73, Pleure pas la bouche pleine, avec Bernard Ménez, qui a été longtemps un des acteurs fétiches de Pascal Thomas. Et puis 74, Le Chaud Lapin, avec Bernard Ménez. Et puis d'autres films, comme en 76, Nono Nénès, avec toujours Bernard Ménez, mais aussi Jacques Villeray. 76, La Surprise du Chef. Et puis d'autres, comme en 76, Confidence pour Confidence. Les Maris, les Femmes, les Amants, 88, avec Jean-François Stévenin. 99, le film avait vraiment marché très bien. C'était La Dilettante, avec Catherine Fraud. Je crois qu'elle avait obtenu le César à cette occasion-là. 2001, Mercredi, Folle Journée, qui se passait à Nantes, avec Vincent Lindon, Alessandra Martinez. Et puis, ensuite, des films comme Mon Petit Doigt m'a dit, avec Catherine Fraud, André Dussolier. 2006, Le Grand Appartement, avec Laetitia Casta. 2007, L'Heure Zéro, avec François Morel. 2008, Le Crime et Notre Affaire, avec Catherine Fraud et André Dussolier. Ils reprenaient le rôle qu'ils avaient déjà tenu dans Mon Petit Doigt m'a dit. C'était un couple de détectives anglo-saxons, je ne me rappelle plus leur nom, mais enfin, peu importe. Ensuite, en 2012, Associé contre le crime, toujours André Dussolier et Catherine Fraud, qui reprenaient ces mêmes personnages. 2015, Valentin, Valentin, et 2019, À cause des filles, avec José Garcia, Marie-Josée Croz et Audrey Fleurot. Le film Voyage en pyjama, je répète, est proposé uniquement par le Pathé Quinconce. Pierre.
Durée 1h29, avec Alexandre Laforie, Constance Labbé, Anouchka Delon, la fille de, et Lolita Chama, la fille de.
Exactement, oui.
La fille de qui?
Isabelle Huppert.
Bravo. Synopsis, Victor, la garantaine, professeur de lettres en vacances et prévisionniste amateur à Météo France, est un feu follet, un dilettante sympathique qui se laisse vivre au gré du vent, aux côtés de sa compagne Anne, qui commence à s'en fatiguer. Dans ce road movie, en forme de chronique sentimentale à la fois burlesque et mélancolique, il va faire le tour des lieux de son passé. Il retrouvera ce que sont devenus ses amis et amis. Il croisera surtout ses anciennes compagnes. Toutes le regrettent, mais elles ont toutes aussi quelque chose à lui reprocher. Peut-être parce qu'elles ont trop aimé cet être si aimable, rêveur, imprévisible, mais surtout insaisissable. Allez savoir. La revue de presse. L'Humanité, avec Marie-Josée Sirac. Avec la légèreté et le goût du bonheur qui sont sa marque de fabrique, Pascal Thomas a filmé un road movie amoureux à bicyclette. Le Figaro, avec Eric Neuhoff, un voyage frais et vif, orchestré par Pascal Thomas, très inspiré. Positif, avec Philippe Rouillet, la fantaisie reste le maître mot de cette comédie qui mêle le vaudeville et le burlesque à un sens de l'absurde qui permet tout. Le Journal du Dimanche, avec Stéphanie Belpech, il s'en dégage cependant un charme suranné, notamment à travers l'écriture soignée des dialogues. La Croix, avec Corinne Renoux-Nativelle, le film de Pascal Thomas gravite autour d'un quarantenaire désinvolte jusqu'à en perdre consistance. La nuée de femmes qui étrangement qu'il attire à lui ne suffit pas à donner corps à ce récit. Et je terminerai par ceux qui n'ont pas aimé, Télérama, avec Jérémy Couston. Par nostalgie de l'âge d'or de Pascal Thomas, on a souvent été indulgent avec ses œuvres mineures et ultérieures, où subsistait malgré tout l'insouciant parfum des amours libres et la petite musique anachronique des utopies sous Giscard. Il en faudrait beaucoup d'indulgence cette fois-ci pour avaler un conte d'été grossièrement dévergondé. Et Libération par Camille Nevers, un exercice de contentement de soi achevé, raté, leçon de choses monolithique, assez dur.
C'est quand même très dur. Hein,
ouais.
Bon. Voilà, Le Voyage en pyjama, c'est une fantaisie largement filmée au Mans.
Ah oui.
On y reconnaît aisément différents lieux de la cité Plantagenêt, y compris notre MJC, dont une des salles du Cinépoche a même été mise à contribution.
Ah oui, tout à fait. Oui.
Voilà, alors c'est jamais dit que c'est au Mans, hein, dans le film. Mais ça a été tourné au Mans, au lycée Montesquieu, si on reconnaît. Donc Victor est un professeur qui a décidé de prendre une année sabbatique. Alors qu'il se rend compte fortuitement que sa femme le trompe, il décide de partir à l'aventure, au hasard, par les chemins. Alors il part en vélo, à pied, en train, en Vespa et en bateau fluvial. Au cours de ses pérégrinations, il fait des rencontres insolites et cocasses, quelques hommes, mais surtout des femmes, des ex et des inconnus, avec qui il va partager quelques instants, certains d'ailleurs très insolites, avant de reprendre sa route. Alors le seul défaut du film, il est quand même un défaut important, ben, c'est une direction d'acteur très approximative, étonnant d'ailleurs parce que pas mal de comédies ont quand même de la bouteille, mais j'ai trouvé qu'il jouait pas très très juste, et une mise en scène très 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 statique. Alors là, c'est pire que tout, hein. Mais Pascal Thomas est avant tout un scénariste et pas du tout un virtuose de la technique. Alors donc son film, c'est une sorte de marivaudage, c'est très agréable parce que ça multiplie des scènes et des personnages farfelus, loufoques, dans une atmosphère paisible, lumineuse, bucolique, fluviale. C'est souvent drôle parce que les situations et les rencontres le sont. C'est léger comme son personnage principal, un type tendre et sympathique. C'est une jolie balade, ma foi. Qu'en penses-tu, Pierre ?
Petit roulement de tambour, Mansos et Sartois, si vous connaissez quelque peu la cité Plantagenêt, le Vieux Mans, vous allez vous régaler. Beaucoup d'images de la vieille ville, de la MJC Prévert notamment, là où se situe notre radio, et puis aussi l'apparition d'un projectionniste des cinéastes dans son propre rôle au ciné-poche. L'histoire, quant à elle, est du pur Pascal Thomas, selon moi, de nombreuses amourettes pour un seul homme, qui d'ailleurs ne voyage que très peu en pyjama, finalement.
Oui, c'est au tout début du film.
Oui,
hein,
oui, c'est parce que c'est le titre, mais bon. Mm-hmm. Alors, c'est drôle, sensuel, frais, un brin romantique. Bref, un régal pour une pléiade d'acteurs.
Voilà, donc, on a apprécié. Et,
oui,
pas, parce
aimé,
que,
oui.
Et pas simplement parce que ça a été tourné au Mans.
Ah non, non, c'est bien. C'est
surtout
bien.
Que moi, je ne suis pas du tout Mansos, ça s'entend. Comme un prince, c'est un film proposé à la fois au Méga CGR, au Pathé Quinconce et au Colisée. C'est un film de Ali Mariar, acteur, réalisateur, scénariste, dans ses premiers longs métrages. Et Pierre vous en dit davantage sur ce film Comme un prince.
Alors, durée 1h30, tout juste, oui, avec oui. Ahmed Silla, Mallory Vanek et Julia Piaton. Le synopsis, Souleymane, 27 ans, champion de boxe en pleine préparation des JO avec l'équipe de France, voit son avenir s'écrouler lorsqu'il se fissure les os de la main suite à une bagarre dans un bar. Souleymane se fait exclure de l'équipe et est envoyé au château de Chambord où il doit effectuer ses 400 heures de travaux d'intérêt général à ramasser les déchets dans les jardins. D'abord insensible au lieu, Souleymane finit par s'intéresser au château, à ceux qui y travaillent, et notamment à Eddy, la responsable événementielle qui va l'embarquer dans un autre univers. Mais sa rencontre avec Mélissa, une jeune ado au talent exceptionnel pour la boxe, va remettre en question ses projets. La revue de presse, elle, avec Julia Dion, scénario original, ce million dollar baby à la sauce Frenchy confirme le talent discret d'Ahmed Silla, très à l'aise dans le registre de la comédie romantique.
Alors, Million Dollar Baby, ça n'a rien à voir à part la boxe.
Hein. Ah oui, d'accord. Le Figaro avec Étienne Sorin. Dans le rôle d'un champion de boxe condamné à des travaux d'intérêt général, l'acteur porte cette comédie grâce à son charme et sa drôlerie. Le Journal du Dimanche avec Baptiste Thion. Comédie sur la transmission, ce premier film alternant le drôle et le moins drôle est trop balisé et prévisible, mais il peut compter sur Ahmed Silla, entouré par des seconds rôles convaincants. Et ceux qui n'ont pas aimé, pour finir, Le Parisien avec Renaud Barognan, comédie qui cherche à valoriser l'ascenseur social comme un prince manque de punch et cumule les gags lourdeaux, les dialogues au ras des pâquerettes, les situations abracadabrantes pour ne pas dire embarrassantes. L'Obs avec Nicolas Chalère, encore un machin produit par et pour la télé. Ce n'est même pas nul, c'est rien. Une enfilade de scènes molles, à l'humour plat et aux émotions frelatées, sans l'ombre d'une trace de cinéma, mais avec Jonathan Lambert et l'inévitable Jonathan Cohen qui passent une tête en guest star, le temps de se demander ce qu'ils font là. Et enfin Télérama, avec Joseph Boinet, si l'intrigue réunit les ingrédients d'un parfait conte de fées, la magie n'opère pas. La naïveté du propos et de la mise en scène laisse le spectateur sur le bord du ring.
Et oui, et oui, et oui, le film est proposé par le Colisée, le Pathé Quinconce, le Méga CGR, Souleymane, c'est un grand espoir de la boxe française, mais suite à une rixe, eh bien, il voit son rêve olympique s'envoler, car il est exclu de l'équipe de France, et il doit même, l'équipe de France de boxe, bien sûr, il doit même effectuer un travail d'intérêt général au château de Chambord, ce qui, de prime abord, ne l'enchante guère. C'est là qu'il rencontre une jeune ado en laquelle il décèle du potentiel pour la boxe. Il décide alors de l'entraîner. Il rencontre aussi Eddy. Et alors, Eddy, c'est une
oui.
des responsables du château. C'est joué par Julia Piaton. Alors, Julia Piaton, fille de
Ah, alors là, je
Charlotte
sais,
de Durkheim.
Oh.
Eh oui. Donc, qui peu à peu va l'amener à s'intéresser à l'histoire du château. Voilà, donc un film plein de bons sentiments, dénué de toute vraisemblance, mais sauvé par les prestations de ses acteurs et quelques scènes qui relèvent quand même un petit peu l'ensemble, notamment des scènes entre Suleyman et son père qui évoquent la dure condition d'émigrer et les sacrifices faits par les parents pour que leurs enfants puissent éventuellement s'en sortir. Sinon, on ne retiendra pas grand-chose de cette énième comédie de transmission, sans relief, même si on apprend quand même deux, trois choses sur l'histoire du château et ceux qui ont vécu dans ce château. Certes, ici ou là, on tombe sur une scène drôle, comme toujours grâce à Jonathan Cohen, mais d'autres sont très, très, très laborieuses. Quant à l'histoire de rédemption par la boxe, elle est tellement peu crédible et très naïve qu'elle en est risible. Mais bon, voilà, c'est un énième feel-good movie sans prétention, mais sympathique, mélangeant récits d'apprentissage et comédie romantique, monté grâce à des coproductions télé et à la présence de quelques acteurs bankable, comme on dit, du cinéma, sans la moindre surprise. Franchement, bof. Hein. Il y a un critique qui a dit qu'il n'y avait rien.
c'est vrai.
Un peu ça. Voilà. Allez, ça s'appelle Comme un prince et ça a une belle distribution, hein, puisque c'est distribué au Pathé, au Colisée et Omega CGR. Prima Donna, en revanche, n'est distribué qu'au Colisée. Et c'est d'ailleurs un petit peu une surprise pour moi, parce que Prima Donna, c'est un film qui, même sur Paris, n'a droit qu'à... Enfin, Paris périphérie, n'a droit qu'à trois salles. Alors, pour qu'il y ait une sortie au Mans, c'est probablement ce qu'on appelle une sortie technique. Prima Donna, c'est un film italien de Marta Savina, réalisatrice et scénariste. C'est son premier long-métrage. Ça dure 1h40. Et le titre, c'est La ragazza del futuro, la fille du futur. Et en français, on a donné Prima Donna. Sicile, 1965, Lia a grandi dans un village rural. Elle est belle, têtue, et c'est ce qu'elle veut. Lorenzo, fils d'un patron local, tente de la séduire. Lorsqu'elle le rejette, fou de rage, il décide de la prendre de force. Au lieu d'accepter un mariage forcé, Lia le traîne au tribunal. Cet acte va pulvériser les habitudes sociales de son époque et va ouvrir la voie au combat pour les droits des femmes. Voilà, donc ça c'est le synopsis. La revue de presse, Renaud Baronian dans Le Parisien, magnifique dans sa façon de raconter un combat des petits contre les puissants, mais aussi dans la description des charmes et des misères de la Sicile d'antan. Le film est emporté par une splendide héroïne, remarquablement campée par une jeune comédienne sicilienne, Claudia Guzmano, une belle découverte. Augustin Pietro Locatelli dans Télérama, dans une Sicile rétrograde au cœur des années 60, un récit d'émancipation universelle à la mise en scène moderne. Arnaud Allier dans Les Inrecuptibles, Prima Donna fait de prime abord redouter le déroulé d'une reconstitution historique en pilotage automatique, mais il réserve dans son académisme de façade des moments d'affranchissement intense qui expliquent, on le comprend à rebours, pourquoi il distille une aura étonnamment claire et lumineuse. Le Monde, Prima Donna se révèle une pâle dissertation féministe qui sacrifie tout à sa bonne cause et pour toute forme se contente d'un néo-réalisme télévisuel. Prima Donna, proposé par le cinéma Le Colisée, attention, c'est de la VO, au Colisée, uniquement de la VO, film d'1h40 que je n'ai pas vu, j'avais la possibilité éventuellement d'aller le voir, mais je ne suis pas très très motivé par un film qui se passe en Sicile en 1965, voilà.
Non, pas vu.
Allez, petite pause musicale, on entend ce titre, mais on l'entend bien dans Le Voyage en... dans Comme un prince, c'est le groupe Black Eyed Peas et Let's Get It Started, c'est une musique entraînante et on l'entend notamment quand la jeune fille s'entraîne à la boxe avec son mentor Suleyman et là, vous l'entendez sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
And the bass keeps running, running, and 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 running, running, and
in this context, there's no disrespect. So when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. Lose the inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's pulling me out. You wouldn't believe how we wow. We burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from Northwest East Side. Everybody, yeah. Everybody, yeah. Let's get into it. Yeah. Get stoked,
come on.
Get it started,
come on.
Get it started,
yeah.
Get it started.
Let's get it started.
Ha.
Let's get it started
in here.
Let's get it started.
Ha.
Let's get it started
in here.
Let's get it started.
Ha.
Let's get it started
in here.
control, a body and soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it, the P's will do it. Get started, get stupid. Don't worry about it, people will walk you through it. Step by step like the infant new kid. Inch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feeling's irresistible and that's how we move it.
Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked,
I'm out.
Get started,
I'm out.
Get started,
yeah.
Get started.
Let's get it started.
Ha.
Let's get it started
in here.
Let's get it started.
Ha.
Let's get it started
in here.
Let's get it started.
Ha.
Let's get it started
in here.
Let's get it started.
Ha.
Let's get it started
in here.
Yeah.
Just keep running, running, and running, running.
Come on, y'all. Let's get it.
Dill at the gate, will bring the bugged out drill.
Just
lose your mind, this is the time. Your can't stand still, twist and bang your spine.
Just
bob your head like me, Apple D. Up inside your club or in your Bentley. Get messy, loud and sick. Your mind fast, no more on another head trip.
So
come down now, do not correct it. Let's get ignorant, let's get hectic.
Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked,
come on.
Get started,
come on.
Get started.
Get started.
Let's get it started.
Ha.
Let's get it started
in here.
Let's get it started.
Ha.
Let's get it started
in here.
Let's get it started.
Ha.
Let's get it started
in here.
Let's get it started.
Ha.
Let's get it started.
Black Eyed Peas, let's get it started. Dans Comme un Prince, on entend cette chanson. Les Chambres Rouges, c'est proposé uniquement au Méga CGR. C'est un film de Pascal Plante, réalisateur, scénariste et monteur canadien né en 88. Il avait réalisé en 2017 Les Faux Tatouages, sorti en VOD. Et en 2020, Nadia Butterfly. Pierre vous en dit davantage sur ces Chambres Rouges.
Duré 1h58, ce film, attention, est interdit aux moins de 12 ans. Avec Juliette Gariepy, Laurie Fortin-Babin et Elisabeth Locasse. Le synopsis, deux jeunes femmes se réveillent chaque matin aux portes du palais de justice de Montréal pour pouvoir assister au procès hyper médiatisé d'un tueur en série qui les obsède et qui a filmé la mise à mort de ses victimes. Cette obsession maladive les conduira à tenter par tous les moyens de mettre la main sur l'ultime pièce du puzzle qui pourrait permettre de définitivement confondre celui que l'on surnomme le démon de Rosemont, la vidéo manquante de l'un de ses meurtres. La revue de presse, l'écran fantastique avec Erwan Barguin. Intelligente, éprouvante et intense, Les Chambres Rouges est une œuvre magistrale dont on sort difficilement indemne. Écran large avec Mathieu Jaworska. En refusant de montrer frontalement l'horreur et en se concentrant sur un personnage aussi trouble que fascinant, Pascal Plante réalise une étude glaçante de la propagation du mal à l'ère numérique. Possiblement le meilleur film jamais réalisé sur le snuff movie. Le Parisien, avec Renaud Barognan. Hors norme, ce polar québécois étrange suit le parcours de jeunes filles qui ne cachent pas leur hybristophilie, ce désir pour les criminels et les plus dangereux, très réussi, mais éprouvant. Libération avec Lelo Jimmy Battista, étrange film, froid, malade, virtuose, frustrant, dont les images malgré tout persistent. Ouest France avec Thierry Chaise. Si Plante réussit formellement sa plongée étouffante dans les tréfonds de l'horreur humaine, son scénario et la gestion des rebondissements sont moins convaincants. L'Obs avec François Forestier. Un nouvel angle dans la figure ultra usée de la mythologie du serial killer. Enfin, Télérama avec Michel Besbach. Ce cinéma purement visuel déploie un art du dévoilement lent et progressif qui rendait déjà Nadia Butterfly, le précédent long métrage de l'auteur, unique et remarquable. Dommage que la dernière partie, ici, délaisse la froideur pour des effets trop tapageurs. Et ceux qui n'ont pas aimé, le journal du dimanche avec Stéphanie Belpech, un thriller poisseux mettant en scène un personnage ambigu qui peine à entretenir la tension avec ses scènes étirées, son rythme lent et son intrigue délayée. Et enfin, Le Monde, c'est autour de cette dernière, visage inexpressif, vie solitaire et taiseuse, habitude maniaque, que s'élabore le film dont la froideur s'applique à la fois à créer une ambiance inquiétante et à nous suggérer le caractère psychopathe de son héroïne, l'un et l'autre se surlignant, le sujet vire à la démonstration et nous laisse de glace.
Pas vu Les Chambres Rouges, mais c'était possible de le voir au Méga CGR. Je ne suis pas absolument certain que M. Baricot, le directeur du Méga CGR, soit enchanté d'avoir ce genre de film, parce qu'a priori, ça ne va pas lui faire beaucoup d'entrées, mais bon, c'est comme ça. Krisha et le maître de la forêt, c'est un film d'animation proposé uniquement par les cinéastes. Et attention, hein, c'est comme c'est un film pour les enfants, visiblement. Il n'y a qu'une seule séance dimanche, il y en avait une déjà mercredi dernier, mais une seule séance dimanche à 15h30. Peut-être que les semaines suivantes, il y aura encore quelques séances le mercredi, c'est possible. Mais c'est un film qui est un premier film de Jae Boon Park. Oui, je ne connais pas très bien le coréen, donc je ne sais pas si ça se prononce comme ça. 1h08, éleveuse de rennes nomade, la jeune Krisha vit avec sa famille sur les steppes de la toundra sibérienne. Lorsque sa mère tombe malade, Krisha écoute les conseils d'une vieille chamane et part à la recherche d'un mystérieux ours rouge qui lui est apparu en rêve. Il veille sur les peuples de cette terre gelée et se fait appeler le maître de la forêt. Donc je répète, 1h08 pour ce film, Krisha et le maître de la forêt. Bernard Genin dans Positif déclare que c'est un premier long-métrage exceptionnel. Nicolas Chaleur dans L'Obs que c'est une petite merveille au charme ancestral. Jérémy Oro dans Les Inrecuptibles, Krisha et le maître de la forêt donnent à voir un véritable monde en réduction, une Sibérie miniature, saisissante de beauté, paradoxalement sublimé par son artificialité. Le voyage initiatique de la jeune nomade en revêt une dimension métaphysique sur le rapport même que le cinéma entretient et doit entretenir avec Mère Nature. Sylvestre Picard en première, une micro-aventure dépouillée, un brin statique qui traîne assez frontalement de ses thèmes sombres et complexes, Ceci dit, si on a moins de 10 ans et qu'on ne connaît rien au chamanisme ou à l'exploitation capitaliste, c'est une chouette intro. Voilà, ça s'appelle Krisha, le maître de la forêt. C'est proposé par les cinéastes avec une seule séance déjà pour ce film dimanche après-midi. Dernier film de l'affiche cette semaine, Si proche du soleil, un film de Benjamin Rancoul. C'est son premier long métrage. Il est réalisateur, scénariste, monteur et producteur, coproducteur de ce film. Son film dure 1h30. Il est proposé uniquement au Colisée. Et de quoi est-il question ? Chaque fois qu'il se réveille, un jeune homme apparaît dans une nouvelle réalité dans laquelle il aurait une autre vie. Amnésique, qui plus est de son passé, comment va-t-il sortir de ce cauchemar ? Ben, c'est pas moi qui vous le dirai parce que je ne suis pas allé voir le film. Il faut dire que le film a une seule copie sur Paris et il est projeté qu'à une seule séance. Donc, c'est ce qu'on appelle une sortie technique, probablement. C'est pour ça que le Colisée est là et que je pense qu'il va y avoir des séances, voire des journées entières sans un spectateur pour ce film « Si proche du soleil » de Benjamin Rancoul. Voilà. Il est temps de vous annoncer les films pour la semaine prochaine, mais d'abord, une petite pause musicale. Un titre que l'on entend dans le film « Pauvre créature », un fado. Ça s'appelle Au Quarto et l'interprète s'appelle Carminio. C'est sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Au Quarto, on entend à peu près une minute de ce titre dans le film Pauvre créature. Et là, vous allez écouter les quelques minutes, 3 minutes 18.
Neste quarto tão pequeno que eu pensava ser só meu, infiltra-se um tal veneno que é a solidão e eu juntos não somos um todo. Sufocante o vazio e eu já nem sei de que modo foi invadido frio. Agora já somos três, mas esses não fazem um. Nem ao entrares tu me vês. Neste quarto é de nenhum. Um coração que se partiu, que está sem nada para dar. Este quarto vazio, este quarto vazio, onde nem lá cabe o ar.
Quarto Carminho, un titre que l'on entend, enfin un extrait dans le film Pauvres créatures. J'espère que Rodolphe Pereira, le dynamique directeur des cinéastes, aura apprécié. Je ne sais pas, peut-être, qu'il a tout le fado, j'en sais rien. Les films à l'affiche la semaine prochaine. Alors déjà, petit rappel, c'est la semaine Télérama aux cinéastes. Alors la semaine Télérama, c'est l'occasion pour vous de revoir des films si vous les avez ratés. Des très bons films de l'année 2023, des films qui ont marqué l'année 2023. Alors, bien entendu, il y a Anatomie d'une chute, mais il y en a plein d'autres. À vous de vous renseigner sur le site des cinéastes où vous avez la programmation. Et puis, cette semaine Télérama, c'est aussi l'occasion de proposer des films en avant-première. Et si vous nous écoutez en direct, bien dès ce soir à 20h30, vous avez le film La Zone d'intérêt, un film qui a fait beaucoup parler de lui au moment du Festival de Cannes. C'est à 20h30 donc au cinéaste. Samedi, Dali, le film de Quentin Dupieux consacré visiblement à Salvador Dali. 20h30 donc samedi au cinéaste. Lundi, à 20h cette fois-ci, Green Border d'Agnieszka Holland, toujours au cinéaste. Et mardi, May December, toujours au cinéaste à 20h30. Le film sera projeté à partir du 24 janvier. Et puis, là, c'est dans les circuits Pathé et Méga CGR. Jeudi soir, c'est la projection en avant-première avec équipe de films de 14 jours pour aller mieux. Donc, il y a, je pense, le réalisateur, mais il y a aussi Maxime Gasteuil, qui est l'acteur principal du film. Il est prudent de réserver, à mon avis, pour aller voir ce film. 14 jours pour aller mieux. C'est théoriquement à 20h au Pathé et 20h30 au Méga. Alors, je ne sais pas, Gasteuil s'y fait l'entrée à l'un et la sortie à l'autre, probablement, comme ça se passe d'habitude, comme ça. Les films à l'affiche, donc, la semaine prochaine, outre May December, qui est un film qui doit être intéressant, avec Nathalie Portman et Julianne Moore, il devrait y avoir, à coup sûr, Un coup de dé d'Yvan Attal, avec Guillaume Canet et Yvan Attal. Il devrait y avoir La couleur pourpre, c'est un remake du film La couleur pourpre, mais en comédie musicale. On devrait avoir, à coup sûr, Captive, d'Arnaud Despalières avec Mélanie Thierry et Josiane Balasco. Ça a l'air très intéressant. Et puis peut-être y aura-t-il L'homme d'argile avec Emmanuel Levos et Raphaël Thierry. Et peut-être aussi Le dernier des Juifs de Noé Debré avec Agnès Jaoui, Michael Zendel. Voilà, on verra ça la semaine prochaine sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Nous, cette semaine, on vous recommande
Le voyage en pyjama.
Ouais, le voyage en pyjama,
oui. C'est un régal.
Voilà. Et puis, Pauvres créatures, mais ça, c'est pour un public averti, on va dire. Voilà. Sur ce, bien, nous vous souhaitons une excellente semaine cinématographique ou pas cinématographique d'ailleurs. Et on se retrouve la semaine prochaine sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Au revoir.
Au revoir.